C'est une émission en toute liberté, c'est-à-dire qu'en principe, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Il n'y a pas de... On peut vous dire ce que vous voulez. Vous êtes à l'Institut des Libertés, on a lancé sa chaîne média il y a 6 mois, les gens ont l'air d'aimer, et ce qu'on essaie de faire, c'est d'amener des gens qui ont quelque chose à dire. Et on s'en fout de ce qu'ils ont à dire, mais ce qu'ils ont quelque chose à dire et auquel ils croient profondément. On peut être d'accord ou pas, ça n'a aucune importance, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est que les gens fassent des diagnostics et apportent des bonnes informations. Alors aujourd'hui, j'ai invité Jean Lassalle, que tout le monde connaît, enfin que beaucoup de gens connaissent, pas assez à mon goût, mais qui se trouve être cher à mon cœur, parce que d'abord il est du Sud-Ouest, ensuite il aime le rugby, et enfin, il a un accent absolument charmant. Que j'aime beaucoup, parce que quand je parle de Jean Lassalle à certains des amis, ils me disent « il est très très bien, mais j'ai du mal à le comprendre ». Mais moi j'ai aucun mal à le comprendre, parce que j'ai longtemps vécu en Béarn, à Auch et tout, donc j'ai aucun mal à comprendre Jean Lassalle. Ça me paraît une bonne chose. Et il est venu avec...
Eddy Pujalon.
Eddy Pujalon, que j'ai déjà interviewé ici.
Bien sûr, sur l'éolien notamment, sur l'éolien, sur la ruralité.
Sur la ruralité, etc. Et on est venu dans le fond, on s'est dit de quoi on allait parler. Jean m'a demandé de quoi on allait parler. Et donc, j'ai dit, mais on va, Jean qui a été dans la politique et qui a eu une vraie vie, c'est-à-dire qu'il a commencé dans la campagne... dans les Pyrénées, et qui termine de député, peut-être c'est pas fini, de la République. Comment se fait-il, dans le fond, la question que je voudrais poser à Jean, c'est comment se fait-il que notre pays, qui avait dans le fond quasiment les meilleurs systèmes hospitaliers du monde, il y a 30 ou 40 ans, l'un des meilleurs systèmes d'éducation du monde, une industrie qui était une industrie de pointe, et on peut continuer, l'ordre public qui fonctionnait partout, le respect de la République, enfin... On est en train de devenir un pays qui ne marche plus, où les gens sont malheureux. Ce qui me frappe le plus quand je vis beaucoup à l'étranger, où j'ai vécu beaucoup quand je revenais en France, c'est à quel point les Français avaient l'air malheureux. Alors qu'autrefois, c'était un des peuples les plus gais de la Terre, quoi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ou 40 ans pour que les Français deviennent un peuple qui soit le plus gros consommateur d'antidépresseurs en Europe, quoi. Qu'est-ce qu'on leur a fait? Et qui est responsable? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voyez, c'est presque à l'homme de terrain que je parle, c'est au... Alors, Jean...
D'abord, merci infiniment, Charles, de nous inviter en toute liberté, parce qu'il est rare qu'on vous reçoive dans une télé, quand on vous y reçoit, c'est-à-dire moi, pratiquement plus jamais... en vous disant, vous pouvez parler en toute liberté.
Vous devez parler en toute liberté.
Vous devez, alors. Vous devez. Bon, mais alors, toi, je sais à quel point je suis déjà déformé. Alors, cette question me taraude depuis une trentaine d'années, et j'ai écrit autour de ça une dizaine de bouquins. Alors, j'ai compris, je me suis dit, ça vient peut-être qu'il y a un peu, c'est peut-être un peu congénital, parce que déjà, nos aînés les Gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Je me suis dit, peut-être. Mais j'ai regardé entre-temps, et la France n'a pas toujours eu peur que le ciel lui tombe sur la tête.
Elle n'a pas toujours eu peur de son ombre.
Et oui, pourtant elle a reçu des visites, des Goths, des Visigoths, des Ostrogoths, des Saligoths, des gars qui sont venus du nord, du sud, etc. Bon, et puis on est quand même toujours là. Moi, je pense que ça s'est passé à la fois rapidement et tout en douceur. Pour moi, un petit moment historique, c'est la chute du mur de Berlin. C'est-à-dire que jusque-là, bon, on ne va pas trop mal. Et surtout, on consacre près de 4% de notre budget à la recherche. Aujourd'hui, c'est 0,075. Et encore, on doit le 0,25 au Covid. Voilà, sinon, c'est 0,050. Donc, quand on cherche, comme disait l'autre, on ne trouve pas toujours, mais on a plus de chance. Mais la recherche conduit à avoir des relations. C'est-à-dire que les chercheurs cherchent, mais ils ne peuvent pas chercher tout seuls. Donc on demande à des jeunes de s'associer, on demande à des hommes et des femmes qui ont de l'expérience de bien vouloir en faire part, au lieu de les mettre bêtement dans un EHPAD à 64 ans et demi, souvent pour qu'ils libèrent la maison familiale dans laquelle il n'y a plus personne. Et ce qui fait que nous avions un modèle, Et nous avions gagné face au système, qui était le système soviétique, qui aurait pu être notre, il se trouve que c'était celui-là. Moi, ça m'a marqué parce que j'ai eu peur de la bombe atomique, mais pas tellement non plus. Parce que...
Dans les vallées pyrénéennes, c'était tranquille là-bas.
Oui, mais en fait, je suis parti très, très tôt visiter l'URSS.
Oui.
Une fois que j'ai eu fini d'être berger, que j'ai lancé mon cabinet d'ingénieur conseil pour être indépendant, parce que mon père m'avait dit un jour, je vois que tu veux faire de la politique. Si tu fais de la politique, à mon avis, il vaut mieux que tu apprennes à être indépendant. Parce que s'il n'y a jamais quelqu'un qui te donne un sou, et surtout, c'était la grande mode à l'époque, qui arrive avec une liasse de billets sans que tu saches pourquoi, t'en fais pas, ils reviennent à te voir, et ce ne sera pas le jour qui t'arrangera le plus. Donc une fois que j'ai fait tout ça, j'ai fait quelques voyages en autostop à l'Union soviétique. Et comme je m'étais désintimidé, ce qui a pris du temps, les nanas qui étaient au contrôle, de temps en temps, mettaient un costume soviétique, et puis au retour, un costume allemand de l'Ouest. Voilà, donc j'ai vu. Et puis j'ai vu qu'au fond, Moscou c'était terrible, Saint-Pétersbourg aussi, et que si on allait un peu au ras des pâquerettes, c'est-à-dire 40 km autour, là où c'était interdit, j'ai dit, il faut qu'ils gagnent tout de suite, ou alors ça va prendre du temps. Voilà. Et n'empêche que ce système était quand même terrifiant. Et notre modèle, qui à cette époque-là, c'était dans les années, juste avant le... Non, c'était bien avant la mur, la
chute du mur de Berlin.
65, oui. Oui, 65, j'avais que 10 ans, donc c'était un peu plus tard, quoi. Donc, voilà. Ce système, ce modèle, il n'était pas parfait, mais enfin, les Français allaient voter aux élections à plus de 80%.
Oui.
Ainsi que les Britanniques et les autres. On avait Madame Thatcher, qui avait quand même une relation suivie avec M. Schmitt, avec qui ils n'avaient aucun point commun,
hein?
Ou pratiquement aucun. Et ça fonctionnait. Et tout le monde, finalement, était gagnant. Parce que quand on est dans un contexte où tout le monde gagne un peu, il n'y a pas de raison non plus de sauter au plafond. Alors il faut bien, à l'époque, la CGT animait un petit peu le paysage, la FNSA aussi de son côté, etc. Et moi je pense que c'est à ce moment-là, bon, on n'a pas vu l'occupant, parce qu'il n'avait pas des armées foudroyantes aux frontières, des oriflammes terrifiants, des voix nasillardes vite, etc. Et on s'est laissé envahir. Et on a perdu. Et à partir de là,
Charles Baudet. Et qui c'était l'occupant ?
Comment ?
Qui c'était l'occupant ?
C'est celui qui nous occupe de temps en temps depuis que... parce qu'avant, dans l'histoire, on n'avait pas les mêmes moyens, mais depuis que Christophe Colomb et les copains ont découvert les Indes et les Amériques. Et il s'est monté... Des montagnes d'argent qui, à certains moments, cessaient d'aller chez le roi, qui en faisait ce qu'il pouvait, pas toujours pour le mieux, mais qui ont été... Et à partir de ce moment-là, je finis, juste
oui, bien
ça.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Et disons que l'occupant, c'est comment je devrais dire, c'est une nouvelle manière, c'est un nouveau système qui s'est mis en place progressivement et qui déshumanise l'homme, qui le déresponsabilise pour qu'il rentre dans ce système. Alors qui sait? C'est une partie de nous-mêmes et c'est le monde entier.
C'est-à-dire c'est cette espèce de tendance de rendre l'homme, mettons plutôt consommateur, plutôt que... C'est un peu la globalisation, c'est...
C'est tout à fait la globalisation.
C'est la globalisation,
et c'est-à-dire... On a choisi la globalisation parce que personne ne sait ce que ça veut dire, et on dit, du moment qu'on est global, c'est très bien, il n'y aura plus de guerre, puisqu'il n'y aura plus de frontières, puisqu'il n'y aura plus rien, et global, c'est rassurant. Sauf que global, c'est la négation de l'homme.
Je suis d'accord.
Et de l'histoire. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est...
C'est qu'on a, pensé, on a décidé, dans le fond...
Alors, je finis. Après, je finis sur ce point-là. Les hommes politiques... une fois de plus, ont trahi. Et c'est-à-dire qu'ils ont commencé à faire exactement le contraire dès qu'ils ont été élus.
De ce qu'ils disaient avant ?
De ce qu'ils disaient avant. Ce n'est pas forcément de leur faute, parce qu'ils mentaient déjà pendant la campagne. Parce que les fonds qu'ils utilisaient ou qu'ils avaient choisis les conduisaient à ça. Bon, à ce moment-là, Et vous le disiez tout à l'heure, Charles, très bien, je suis tout à fait d'accord, nous avons toujours eu des hauts fonctionnaires. Mais il y a des hauts fonctionnaires qui sont de très hauts fonctionnaires. Enfin, tout le monde n'a pas été, comment il s'appelait, Jean Moulin. Et Marc, chez nous, tout le monde n'a pas été Clémenceau non plus, hein, depuis 1960-80, par là. Voilà. Et alors, les hauts fonctionnaires, ils ont ceci, ils ont toutes les informations, ils sont infiltrés, surtout les très hauts. Et alors, ils voient tourner le vent un peu avant, donc ils vont plutôt vers celui qui va dominer. Et puis après, nous avons eu le phénomène médiatique qui a explosé, parce que beaucoup de nos titres sont aux mains, non pas de Charles Gave, mais d'autres personnalités qui s'en servent
pour leur promotion personnelle. Et qui bénéficient de la globalisation, quelque part.
Et voilà, et tout ça fait que nous sommes rentrés dans un nouveau système qui nous a vaincus. Donc à partir de cela, je la fais un peu courte aussi,
mais non, mais je comprends pas bien.
Voilà l'état d'esprit. Donc à partir de ce moment-là, nous sommes totalement dérégulés et à vrai dire aussi sidérés qu'en 1940, lorsque nous avons vu la meilleure armée du monde se faire pétrifier en 3 semaines. Un pays à la rue alors qu'il se croyait le premier du monde. Parce que le temps qui avait précédé ressemblait étrangement à celui d'aujourd'hui.
Eh oui.
Nous votions les 40 heures et eux, ils s'armaient jusqu'aux dents. Avec notre technique. Parce que c'était celle de De Gaulle, quand même, qui mettait en œuvre. Voilà. Voilà. Moi, je vois l'affaire comme ça, un petit peu.
C'est-à-dire que, comme le disent les Chinois, quoi, les poissons pourrissent par la tête. C'est notre tête qui a pourri, qui a perdu le contact avec son pays. C'est-à-dire que, moi, je suis stupéfait quand je regarde la France actuelle. C'est la première fois qu'il y a un roi de France qui n'aime pas son pays. Enfin, ce qu'il y a d'extraordinaire avec Macron, je sais pas ce que, merveille. C'est quand même le gars qui va présenter des excuses à l'Algérie et qui dit qu'il n'y a pas de culture française. Mais pour moi, c'est même pas... Ou qui dit que l'armée a fait des crimes contre l'humanité. Je veux dire, c'est presque impossible, quoi. C'est un roi de France qui dit des saloperies sur la France. C'est pas son rôle, quoi. Son rôle, c'est de porter beau. Même si on a fait des saloperies dans l'histoire, et on en a fait, c'est pas ça la question.
Il est pas pour la nation, c'est un mondialiste, donc il faut
qu'il fasse
ça. Mais
je crois que c'est ça, mais non seulement, mais ce que je trouve stupéfiant, il est mondialiste, mais ce que je trouve stupéfiant, c'est qu'on peut être favorable aux étrangers. Moi, j'ai vécu toute ma vie dans tous les pays du monde, et je les aime beaucoup, mais ce que les gens comprennent pas, c'est que l'exil, c'est une souffrance. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu 35 ou 40 ans de ma vie à l'extérieur de la France. Bah, chaque jour, je souffrais parce que j'étais pas en France, quoi. On est bien en France, bon. Mais ce type-là, il pense, c'est ce qu'avait dit Giscard quand il avait été élu le premier soir, il avait dit « la France ne représente que 1% ». Et je m'étais dit « mais quel corneau !» Comme si la France avait représenté 1%, je veux dire. La France a changé le monde. Donc il y a aussi, derrière cette mondialisation, une espèce de mépris et de haine pour leur propre pays. Et je veux bien qu'il soit pour le commerce international, moi je le suis, ça ne me gêne pas. Je vais pas détester mon pays pour ça, quoi. C'est ça qui me surprend, c'est qu'ils pensent que les gens qui aiment leur pays sont des gros cons, des retardataires, des...
Oui, alors qu'on doit tous nous pousser à être pour un destin commun, une nation unie.
Une nation unie, mais en même temps, ils sont pas... Ce que je veux dire, c'est qu'ils pensent que si j'aime ce pays, ça veut dire que dans le fond, je suis un gros crétin, quoi.
Ça, c'est, je crois...
C'est ce qui le conduit à ternir l'image de la France.
Mais ça lui est égal, il ne sait même pas ce que c'est.
Mais c'est l'aspect peut-être le plus douloureux pour les Français. Je veux dire, pour ce que l'on a appelé à un moment donné avec respect, le peuple français.
Le peuple français, exactement.
C'est-à-dire que le peuple, qui a quand même, il n'a pas tout réussi, mais enfin, il a été le premier à dire « ici, le peuple est souverain ». Après qu'on se soit bien entretué et bien guillotiné, on a sorti la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce qui fait qu'avec une langue assez singulière, complexe, mais difficile à apprendre, mais qui est une langue, au fond...
De concept.
De concept, mais aussi de paix.
De paix,
et
oui.
Et même de romantisme, d'une certaine manière, comme la plupart des langues latines. Eh bien, on a... Qu'est-ce que je dis ? On a des jouets. Et je suis perdu de la question.
La question, c'est comment se fait-il que les gens qui nous prônent la mondialisation se croient obligés de dire que du coup, ils méprisent leur pays. On peut être les deux. On peut être les deux, c'est pas gênant. Oui,
mais ça a été les deux, à mon avis, longtemps. Et ça n'a pas été les deux chaque fois que nous avons été mal. Parce qu'à mon avis, ça s'est produit à d'autres moments de l'histoire. Parce que
De Gaulle, il était pour l'ouverture du traité de Rome.
C'était le cœur de la nation,
lui, il a accepté l'ouverture, mais la souveraineté de la France, elle était intangible. Donc, pourquoi pense-t-il que pour créer, mettons qu'on aille vers un gouvernement mondial, une nation mondiale, très bien, mais faisons-le doucement. Il n'y a pas de raison de détruire la France pour arriver à ce truc-là.
Je crois que la pensée de Macron, c'est ce qui fait aujourd'hui grimper les gens de tout horizon qui sont en train de se tourner vers l'extrême droite. Parce qu'on est en train de...
Même pas.
Si, enfin, je crois que si, quand même, parce que le reniement de tout ce qui est notre histoire, notre pays et sa grandeur, des gens de notre âge, qui auront une culture du travail, ce que l'éducation nationale a perdu en route.
Absolument.
Nous, quel que soit l'individu, qui soit capable d'être un ingénieur Bac plus 6 ou qui soit juste devenu un maréchal ferrant, je veux dire, il n'y avait rien de terni. Mais on travaillait tous et il y avait une valeur du travail. Aujourd'hui, moi, j'ai 61 ans. Après, c'est libre à moi de penser ça. J'ai un parcours atypique parce que j'ai commencé dans l'industrie chimique. Quand je suis sorti de l'armée, je n'ai pas demandé qu'est-ce que j'allais faire. On m'a proposé du travail. Le premier travail qui est arrivé, je l'ai pris. Ça m'a conduit à travailler entre 8, samedi, dimanche, jour férié. Et alors, où était le problème? Je n'ai pas trouvé que c'était quelque chose qui était contre nature pour construire ma vie de famille. Aujourd'hui, il n'y a plus un gars qui veut travailler, qui ne veut plus faire boulanger, qui ne veut plus travailler de nuit. Et on a eu des gens qui ont pris la gauche en 81, qui ont expliqué aux gens que sans travailler, ils allaient pouvoir vivre toute leur vie. On a commencé à ternir l'image du travail de base avec un esprit de gauche. Qui expliquait qu'il ne fallait pas punir un gamin parce que ça m'est arrivé d'être puni.
Attends, il y a tout un tas de trucs. Je ne crois pas que ce soit une question de gauche, parce que moi, quand j'étais gamin à Amiens, etc., les gens de gauche, ils bossaient et ils étaient patriotes.
Oui, mais ce n'est pas les gens de gauche, c'est les gouvernants.
Non, mais ici, il s'est passé aujourd'hui. Donc, je ne crois pas que ce soit une question de gauche. C'est que, il s'est passé, mais je ne veux pas revenir aux raisons pour lesquelles ça s'est passé.
La perte de l'industrie.
Oui, mais la perte de l'industrie, je peux l'expliquer, ce n'est pas un problème. Non, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi nos élites détestent-elles notre pays. C'est ça qui me laisse absolument pantois.
Parce qu'à mon avis, et c'est là que j'étais parti... C'est ce qui fait souffrir le plus notre pays.
Je suis d'accord.
Je crois que c'est certainement notre manière d'enseigner, alors que nous avons été les champions du monde, avec d'ailleurs des gouvernements de gauche.
Bien sûr.
Parce qu'après la désintégration de 70, parce que c'était quasiment une désintégration, quand j'ai fait le Tour de France, j'ai vu à quel point on était descendu quand même, obligé de faire des arcs de triomphe dans l'Est et le Nord, pratiquement partout. Et là, il y a eu ces types géniaux qui se sont accrochés en disant « on ira instruire le peuple jusqu'au dernier des villages avec des hussards noirs ». Les curés n'étaient pas forcément tellement d'accord, mais enfin, ça s'est passé. Mais à ce moment-là, effectivement, il y avait une forme de patriotisme naturel. Et un patriotisme, c'est quoi? C'est être fier d'être d'un pays.
Mais ça ne veut pas dire qu'on pense que l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur, mais on est content d'être français. Voilà.
Et on partage ce sentiment en commun. Et alors, avec une démocratie qui fonctionne, ce qui veut dire un État qui fonctionne, la première des choses qu'il faut faire, c'est retoiletter, revisiter complètement l'État. Parce que les gens sentent que l'État n'est plus là pour...
Mais l'État, j'ai reçu un général ici qui était très bien, le général de la Chesnée, qui était le numéro 2 de... l'armée de terre française, et dans le fond, on est arrivé à la conclusion qu'il faudrait que... Il y a l'État régalien, avec les 4 ou 5 fonctions de l'État, l'armée, la police, la justice, la diplomatie, etc. Là, il faudrait voter un budget pour eux, qui serait intouchable, et puis ensuite, les petites cuillères et les trucs comme ça, voter un deuxième budget qu'on peut couper, etc. Mais quand on se rend compte que depuis 20 ans ou 30 ans, chaque fois qu'il y a un problème, on coupe les dépenses de la police, on coupe les dépenses de l'armée, pour pouvoir faire plus de transferts sociaux, on se dit, on est fou. C'est vraiment sacrifier l'État à la prochaine élection cantonale, quoi. Mais on s'en fout de la prochaine élection cantonale. Alors, parce qu'on avait quand même des gens qui avaient le sens de l'État autrefois.
Mais parce qu'il y avait un État.
Ah, c'est une bonne réponse.
Et oui, il y a un état. Moi, j'ai toujours gardé en mémoire cette réponse du général de Gaulle. Pensez-vous que Lebrun était un chef d'État? Et cette réponse, pour cela, encore eût-il fallu qu'il y eût un État et qu'il fût un chef. Et je trouve que ça correspond assez bien à la situation d'aujourd'hui. Alors, comment c'est venu, à mon avis? Mais il pourrait y avoir 30 interlocuteurs autour de la table, il pourrait y avoir 30 réponses différentes. Moi, je pense qu'il faut aller à l'essentiel. Moi, j'ai été heureux de mon enfance, surtout à la maison, parce que à l'école j'étais trop grand, déjà engandé, j'avais pas appris à jouer au ballon bleu avec les gens du village, j'étais dans la quatrième couronne de l'ordre de Fichère, donc un peu, voilà. Mais dans l'ensemble, ça s'est quand même passé. Mais il y avait un point que nous avions en commun, on se posait pas la question de savoir qui on était. J'étais très fier d'habiter le village de l'ordre de Fichère.
Voilà.
Et j'étais en admiration devant le maire. Et à 6 ans, j'ai rêvé d'être maire à sa place. Voilà. Et d'autres voulaient être, à l'époque, je ne sais pas, Coppa, Platini, voilà. Et voilà. Et puis, il y avait le festival de la chanson béarnaise à Syros. Je rêvais de le présenter devant 15 000 personnes. Donc voilà. Il y avait donc un sentiment culturel fort. Et il y avait un point surtout indiscutable, c'est qu'on était tous patriotes et fiers de son pays. Voilà, sentiment d'appartenance. Ce qui faisait qu'on n'était pas du tout l'esprit belliqueux à l'égard même de l'Allemagne, on avait encore quelques ressentiments parce qu'il était passé il y a pas longtemps.
Et puis surtout, on était en général très fâchés contre le village d'à côté avec lequel on jouait.
Ça
on aimait bien lui se mettre sur la gueule, mais c'était pas méchant, mais ça faisait partie du...
Mais d'ailleurs, les matchs les plus assidus, c'était Pau au Laurent, et c'était
Tarbes de Lourdes.
Béo contre l'Aviron Bayonnais, et Tarbes contre Lourdes.
Tarbes contre Lourdes, c'était des grands matchs.
C'était Brive, Aurillac.
Brive, Aurillac, ou Brive, Cahors.
Voilà. Et alors, donc, je pense que...
Donc, il y avait une très forte enracinement dans un lieu dit, mettons, et en même temps, une très forte appartenance à quelque chose de plus grand, quoi. On était, allez, Béarnais et Français, quoi. Et Béarnais encore, ça dépend. On était soit de là-haut, bref.
Ça vaut pour les Bretons et pour tout le reste.
Et puis, c'est-à-dire, on avait appris aussi, je pense, nous apprenions à nous débrouiller pour que tout cela reste. C'est-à-dire qu'on avait des municipales terrifiantes. Ah oui, moi je suis arrivé à 21 ans, moi j'avais pas peur, parce que dans le fond je me suis dit on y va. Mais ceux qui étaient avec moi à l'école ici ne pensaient jamais qu'on allait se mettre une rouste pareille avec les autres. Mais après, une fois que c'était fait, bon, il y avait quelques couillons qui gardaient une haine normale, qu'ils ont d'ailleurs continué à garder, bon, mais les autres, bon, c'était comme ça, on verra plus tard, en attendant, on avance. Et c'était à tous les étages que ça fonctionnait pareil. Pourquoi? Parce que nous avions des hommes vivants de leur vie, et considérant que, quel que soit et quel que fût leur niveau de responsabilité, ils se devaient de l'assumer, et si possible de progresser, parce que c'était pas interdit. Voilà. Mais aujourd'hui,
on n'a plus d'hommes vivants, on a des robots, on a des zombies.
Mais
on
parlait de M. Macron. Bon, M. Macron, bon, il m'a consulté au moment où il se lançait. Mais moi, j'étais déjà candidat en lui. Il m'a consulté. Il m'a dit, écoute Jean, je vois ce que tu fais. J'ai d'ailleurs regardé, je ne garde pas beaucoup de textes qu'on a échangés à l'époque. Je vois ce que tu fais, tu vois ce que je fais. Viens me voir, on s'est vu, on va faire ça. Je lui ai dit non. Mais pourquoi? C'est pas pareil. On n'a pas reçu... moi je suis aujourd'hui l'un des hommes politiques qui après Mitterrand ou Chirac, pour ne parler que de passé très récent, connaît le mieux la France. Toi, tu la connais que très partiellement. Tu connais mieux les couloirs de chez Rothschild ou de l'Élysée que la France. Et ça, c'est quelque chose... Alors, tu vas être obligé de beaucoup parler de nation, beaucoup commémorer, beaucoup, parce que on joue toujours la compensation quand on n'est pas tout à fait ce que l'on croit incarner. Et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, le grand problème d'Emmanuel Macron, c'est pas tellement de savoir s'il se représentera ou pas, ça ne dépend pas de lui. ça dépend de ceux qui choisiront. Tout comme pour Hollande, parce que dans la France de cette époque-là, on n'aurait quand même pas vu le président et le premier ministre se faire déboulonner par un ministre qui n'était jamais que subalterne. Il aurait quand même fallu, ça pourrait se passer à l'Union soviétique, en fait chez nous, c'était quand même un peu plus élaboré que ça. Or, ça s'est passé ainsi. Et le grand problème de Macron, c'est que s'il fait pas la pige dans, cette voile ici, soit avec l'AstraZeneca, en fait, je sais pas comment il s'appelle, ou avec autre chose, grande campagne de presse, on le décanille, on en met un autre. Bon, Madame Le Pen, c'est pas la peine d'en changer, elle tient remarquablement son rôle. Sauf qu'un jour, elle peut franchir la barrière, on ne sait jamais. Mais bon, ce qui ne serait pas forcément non plus le mieux pour la France, parce que tous les autres seraient fous de rage, et elle-même, enfin, etc. Donc, je crois, pour être positif, c'est que nous devons changer de paradigme. Et nous devons retrouver en nous-mêmes ce que nous sommes réellement. Nous sommes issus d'un pays qui est un des plus grands au monde, avec les Britanniques, avec qui ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Nous avons quand même réussi
à nous occuper, c'était très bien.
Un petit millénaire dessiner le monde d'aujourd'hui pour le meilleur ou pour le pire. Eux, ils ont choisi de retrouver leur indépendance.
Et ça, j'avais jamais le moindre doute.
Et au fond, ils vont s'en sortir mieux que nous, parce que ça aussi, c'est un élément qu'on n'a pas bien compris, à mon avis, et qu'on devrait expliquer aux Français. Il y a eu pendant un court laps de temps une question. Bon, on va plus se foutre sur la gueule, là tout le monde était d'accord, parce que 50 millions de morts la dernière fois, ça commençait à bien faire. Bon, il y a les morts officielles, mais il y a ceux de Staline, il y avait ceux d'Hitler avant, et puis il y a eu quelques autres ailleurs. Bon, ça peut pas durer. Et je crois qu'il n'y a pas plus pacifiste dans le sens grand du terme que nous, au fond. On aime la paix, et on aime la liberté, et on aime l'identité, on aime être de quelque part. Et donc on a dit, mais au lieu de faire une Europe simple, comme on a fait les premières, comment je devrais dire, les premiers regroupements de communes, où le maire portait la voix de sa commune. Mais pour autant, il ne portait pas avec lui les prérogatives, son espace dont il avait la charge. Il n'en avait pas le droit. Il portait la responsabilité. Et on a pu faire en commun des choses qui étaient difficiles à faire ensemble. Mais après, on a inventé progressivement les grandes intercommunalités, où là, comme d'habitude, il y a trois mecs qui dépassent, qui sont soi-disant les chefs, mais comme ils ont des responsabilités tellement écrasantes, on a mis un secrétaire général,
qui fait tout.
Si possible, un préfet ou quelqu'un comme
qui
ça.
Qui connaît l'administration.
Qui connaît. Et le pauvre maire, il peut même pas amener son adjoint avec lui. Parce qu'il a trop peur de le voir relégué au 250e rang, c'est-à-dire un rang où on n'a absolument pas besoin de lui. Et ça, c'est une illustration un petit peu de ce qui nous arrive.
Ce que tu es en train de dire, c'est très intéressant. Moi, je trouve ça passionnant. C'est-à-dire que les Français ne sont plus gouvernés par des gens qu'ils respectent, mais ils sont administrés.
Exactement.
Ils sont plus gouvernés, donc ils en crèvent, parce que ces administrateurs, finalement, on l'a vu dans les hôpitaux, ils sont bons à tout, sauf à avoir les médicaments au bon endroit, en bon moment. Mais par contre, ils ont monté des systèmes pour se protéger leurs fesses à eux, pour qu'il leur arrive jamais rien. Et donc, ils font leur boulot, c'est pas ce que je veux dire, mais quand tu regardes le nombre d'administrations hospitalières qu'il y a, tu te dis, mais comment ils se retrouvent, quoi? Qui c'est qui est le chef là-dedans, quoi? C'est comme...
Et vous parliez, Charles, pardon, tout à l'heure, des lits d'hôpitaux. À Oloron, en 1990, ce qui n'est quand même pas le Moyen-Âge, nous avions 50 lits hospitalisés. 14 aujourd'hui. Pour une population sur le versant d'Oloron, sur le bassin d'Oloron, qui est à peu près la même, bien sûr, il y en a quelques-uns qui ont continué à quitter nos campagnes pour aller s'installer dans les grandes bourgades autour d'Oloron-Sainte-Marie, le même phénomène au Pays Basque d'ailleurs.
Bien sûr, partout.
Un peu moins. Mais voilà. Et aujourd'hui, 14 lits. Mais c'est que cela montre bien ce système infernal où ce n'est plus nous les hommes politiques qui avons pris les décisions, mais c'est exactement
des administrations.
Une armée, une espèce d'armée mexicaine. Je n'ai rien contre les Mexicains et j'aime trop ce peuple pour m'en tenir, mais puisque après tout on a inventé le titre, j'y peux rien. De très hauts fonctionnaires qui au fond n'ont jamais de compte à rendre à personne, qui peuvent d'ailleurs se présenter du jour au lendemain à la présidence de la République, ce qui est arrivé à M. Hollande. Vous voyez, il ne faut pas remonter à très très loin. Certains l'ont même fait en continuant à avoir leur leur paye de la
comment de l'inspection des finances ou du Conseil d'État ou
exactement voilà. Donc qu'est-ce que vous voulez, il y a une consanguinité au plus haut niveau qui bien entendu se répercute sur l'ensemble du pays et un élément qu'on a laissé passer, ça c'est vraiment une responsabilité que j'ai vue. J'avais été malade, c'est pour ça que je suis parti d'ailleurs faire le tour de France. C'est quand on a voté les fameuses lois de Hollande. J'ai rien de plus, de moins pour lui que contre lui, mais enfin, quand même, changer totalement la nature des départements. Après les avoir supprimés, les avoir remis. On a quand même fait voter une fois les Français pour des départementales dont nous n'avions pas encore voté la loi. Ça ne serait pas venu à l'esprit de mettre ni de la troisième, ni de la quatrième, ni de la cinquième. Enfin bon, ça a été fait. Et puis, au fond, dans des territoires toujours plus vastes, alors que ceux dont nos compatriotes ont le plus besoin,
c'est proximité.
C'est de dire, donne-moi un coup de main. Qu'est-ce que tu ferais à ma place?
Et voilà,
j'ai un arrangement de famille à faire, j'y arrive pas. Est-ce que tu veux pas me donner un coup de main? Toi, t'es le maire. Toi, t'es le conseiller général. Le député Bayrou veut à tout prix en diminuer le nombre. Mais c'est archi nul. Parce que c'est pas trop de députés. C'est des députés qui ont véritablement un rôle à jouer au niveau national. Mais moi, je vois, peut-être que je suis déformé, par le fait que j'ai la plus grande circonscription de France, qui réunit d'ailleurs 53% de Béarnais et 47% de Basques. Et avant moi, c'était toujours un Basque, parce que je le dis gentiment, parce que Charles Gard, vous connaissez bien toute cette région, vous connaissez bien Biarritz, vous savez, Biarritz, c'est quelque chose.
Ah oui,
là, parce que on dit...
J'opine du bonnet.
Il y avait Guy Petit, un ancien maire de Biarritz, qui disait, dans ce département, il y a les Basques, il y a les Béarnais et il y a les Biarrots. Et j'avais trouvé que c'était pas mauvais. Donc... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quand on est dans un état d'esprit où on ne prend pas les décisions et où l'on défait, où l'on déconstruit ce qu'on a fait peut-être le mieux réussi, parce que c'était notre longue histoire, une organisation territoriale qui faisait que, bon an, mal an, on pouvait quand même vivre un peu partout et avoir l'équilibre des chances. On avait pu construire 50 lits d'hôpital à Oloron-Sainte-Marie. Et qu'ensuite, il a fallu tailler parce que l'argent dans l'espace public n'existait plus. Alors moi, j'aime une France qui est à la fois, qui se donne les moyens de vivre.
Mais elle n'existait plus, pourquoi de... Mais c'est, moi, je peux expliquer pourquoi, parce que... il y a 35 ans, il y avait 85% des gens dans les hôpitaux qui étaient des personnels soignants. Aujourd'hui, il y a plus de personnel administratif que de personnel soignant. Parce que pour réduire le nombre d'hôpitaux, il faut mettre des tas de fonctionnaires qui vont faire le travail de réduire. Mais ils produisent rien, ces gars-là. Donc, grosso modo, plus il y a de fonctionnaires, moins il y a de gens qui bossent dans le... Et ce que j'ai reçu ici un médecin, qui était un professeur à Cochin, vous pouvez regarder ça sur le net si vous voulez, c'était passionnant ce qu'il disait. Il disait, dans le fond, le rêve de ces fonctionnaires, c'est d'avoir un hôpital où il n'y ait ni malade, ni docteur. Que de l'administration, ils s'envoient des papiers les uns aux autres, ils sont très contents. Ils n'ont pas besoin ni des malades, ni des docteurs, ces gars-là. Et donc, c'est un vrai problème. Donc, une fois, on retrouve, la France crève de son État. Ce qui est quand même un paradoxe, parce que la France a été créée par l'État. Mais c'était un État qui faisait son boulot d'État. Maintenant, ils veulent tout faire. Et du coup, ils assèchent tout. 53 milliards de fraude pour la sécu, c'est quand même inimaginable, c'est quand même supérieur au service de la dette. 53 milliards de fraude et tout le monde s'en fout, personne ne poursuit.
Mais la France s'est construite d'une manière très étonnante et on peut en parler avec beaucoup de fierté en étant français, parce que elle a fini par épouser un territoire béni des dieux, c'est-à-dire entouré de mers et d'océans, avec des montagnes pile où il le fallait, un bassin aquitain et un bassin parisien et rhodanien, là où il le fallait tout juste, et puis petit à petit, elle a épousé historiquement ces formes. Mais c'est quand même aussi grâce aux rois.
Oui.
Parce que les rois, ils avaient beau être rois, Mais ils avaient quand même le souci de leur pays. Et puis ils étaient formés, malgré tout, même s'ils étaient très déformés. Et puis après, on a eu les républiques. Bon, mais les républiques, malgré tout, elles ont pris le relais avec l'État. C'est-à-dire que
l'État est passé du roi à l'État.
Oui.
L'État est passé du roi à la République sans trop de problèmes.
Il y a eu quelques coups de guillotine, mais enfin, ça s'est fait. Mais au fond, l'État était à la fois le référent, parce qu'il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui fasse que il faille un roi ou un président pour occuper cet État-là, au nom du peuple. Donc, on avait un État qui était à la fois un symbole fort et un stratège et surtout...
Qui sifflait la fin de la récréation quand il y avait une province qui devenait un petit peu bête ou n'importe quoi, il faisait revenir l'ordre. Et donc, dans le fond, ce qu'on est en train de faire, ce dont crève la France, c'est d'un État qui n'est pas là où il devrait être, et qui est là où il ne devrait pas être.
Exactement. Donc, avec des politiques qui font le contraire au mois de juin.
De ce qu'ils disaient au mois de mai.
Au mois de mai. Et avec, après, une armada de fonctionnaires dont nous avons déjà réglé le cas, et quand même des grands éditorialistes, ouais, qui sont tous issus du même sérail. Je ne devrais pas dire ça, parce que j'ai un peu besoin d'eux. Mais bon, de toute façon, ils ne m'invitent pas. Et s'ils m'invitent, c'est l'effet qui les y contraindront. Mais ils disent la même chose. Quant à la recherche, je finis. Et quant aux grandes consciences que cette plus ce pays a généré, parce que ce pays est devenu universaliste à travers le monde, grâce à son génie. Mais il y avait des gens qui réfléchissaient. On a quand même quelques-uns des plus grands penseurs, on n'est pas les seuls, mais des plus grands artistes, qui sont nés toujours lorsque la France était bien avec elle-même. Aujourd'hui, on a des vieilles barbes de 30 ans, même pas fournies, et qu'on nous présente sans arrêt comme étant la voie à suivre. Mais merde, non, c'est pas ça.
Mais qu'est-ce que Jean... Moi, j'écoute la télévision et je vois, c'est... Comment peut ressentir un citoyen qui voit une entreprise française qui est dans la recherche médicale, qui est en train d'aboutir sur un vaccin et qui demande à l'État de donner 200 ou 300 000 euros et qu'on lui refuse et qui se tourne vers l'Angleterre et qui, elle, donne, avec juste titre, la priorité sur les vaccins. Et quand on voit que les vaccins qui sont produits aux États-Unis sont faits par des chercheurs français, mais qu'est-ce qui s'est passé entre la France qui rayonnait dans tout le monde, et d'un seul coup, tous nos savoirs qui sont partis, tout ce qu'on était bon n'existe plus.
Mais je peux expliquer.
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait cette déliquescence?
C'est toujours la même chose. Je vais vous expliquer. C'est que mon fils, qui est un brillant sujet, qui avait fait une grande université américaine, puis ensuite qui a été lieutenant dans les chasseurs alpins, parce qu'il a demandé à être lieutenant, il a donc fait son service comme lieutenant, il n'était pas obligé, hein, il l'a fait. Et il a ensuite été embauché par BNP Paribas. Il a fait l'école de formation de BNP de Paribas, ils étaient 300-400, il est sorti premier les doigts dans le nez. Et ils lui ont dit, bien entendu, vous restez au siège. Il a dit, bien entendu, rien du tout. Vous me faites marrer. Si je reste au siège à Paris, il me restera 130 euros par mois pour vivre une fois que j'aurai tout payé. Mais je veux que vous me nommiez à Hong Kong, où il m'en restera 1300. Parce que la pression fiscale est tellement gigantesque qu'il faut être... Donc la France, depuis 30 ans, exporte des bacs plus 7 et importe des bacs moins 7. Parce que les bacs plus 7 français sont payés des 100 et des 1000 à l'extérieur et qu'ici, ils ne touchent rien.
Et dans la douleur. Si c'était encore pour faire les mecs heureux...
Mais non.
Ils ne le sont pas. Parce qu'on a besoin de réussir là où on est.
Mais bien sûr.
On a besoin de voir son père... fier de ce que l'on a fait, éventuellement le grand-père s'il existe encore. Et on a besoin tout simplement de s'accomplir. Tandis que les
on ne peut plus s'accomplir.
Est-ce que Charles, toi qui as une vision mondialiste, est-ce que le problème que tu mets sur Macron, par exemple, qui n'aime pas son pays, est-ce que sur les grandes entreprises françaises, alors je suis peut-être à côté de la plaque, j'ai connu des grandes entreprises françaises avec des patrons français qui étaient amoureux de la France et de son rayonnement. Et quand, pour certaines, que je connais bien, qui ont basculé vers des chefs d'entreprise qui ont changé, puisqu'il est décédé, on a pris des gens qui étaient de l'extérieur de la France, soit des Américains, soit des Anglais, etc.
Il y en a eu assez peu.
Est-ce que la vision...
Non, la réalité, c'est-à-dire...
Est-ce que l'amour d'un pays par rapport à une entreprise qui
se développe, ça n'a rien à voir avec... L'entreprise ne peut pas être patriote. Soyons clairs. L'entreprise ne peut pas être priorité. Oui, le rôle de l'entreprise, c'est de ne pas... Non.
Oui, mais
le
sur les rôles clés de la santé, par exemple, la recherche à la santé, etc.,
la santé, c'est
qui
pas
peut conduire à ce qui est arrivé aujourd'hui. C'est-à-dire que la santé, la recherche, on l'a abandonnée. Et
mais,
on se retrouve aujourd'hui...
Mais on l'a abandonné, pourquoi ? Parce que les entreprises de santé en France ne peuvent pas gagner d'argent à cause des prélèvements. Moi, je peux te donner un exemple ici. Il y a un type qui est là-haut, qui est un type qui est absolument génial dans tout ce qui est intelligence artificielle. Il gagnerait.
Il faudra que tu me le présentes. Oui. J'en ai bien besoin.
Oui, c'est ça. Non, mais ça c'est... L'intelligence artificielle, c'est une.
Enfin, oui, je sais, oui, je connais. Oui,
enfin,
je connais.
Non, mais. Et qui gagne. S'il était aux États-Unis, il gagnerait 10 fois plus que ce qu'il est en France. Il reste en France parce qu'il aime ce pays. Mais c'est un choix individuel. Mais la responsabilité du chef d'entreprise, c'est de conserver. C'est de. D'avoir une rentabilité du capital investi qui lui permet d'assurer la pérennité de son entreprise. Je suis chef d'une grande entreprise française. Je me dis, si je reste ici, dans 2 ans ou dans 3 ans, je me fais tuer par les Allemands parce qu'ils ont une rentabilité qui est 3 fois plus forte que la mienne, eh ben, je mets mes usines en Allemagne. Et c'est ma responsabilité. Et si je le fais pas, je suis con. Donc, il faut bien comprendre que le rôle de l'entrepreneur, c'est pas d'être patriote, c'est d'être sûr que l'entreprise qu'il dirige va survivre.
Oui. Mais sauf dans les trucs clés de la nation.
Mais c'est pas à moi. L'armement. Non, mais les trucs, l'armement, je veux bien, mais ça, c'est pas un phénomène de marché. Je veux dire, dans un marché ouvert, eh ben, si tu veux, il a rien, dans un monde théorique, il en a rien à foutre de la nation. À rentabilité égale, il choisira toujours la France, mais s'il y a un pays où il est 2 fois plus rentable, il serait criminel qu'il ne le fasse pas. Donc je voudrais encore une fois qu'on sorte de ces idées imbéciles que quand je vois les gens qui me disent il faut faire une politique industrielle, il faut avoir une vision à long terme, eh ben si tu veux, ils se sont toujours plantés. Parce que les Suisses, ils n'ont pas de politique industrielle, ils n'ont pas de vision à long terme, et ils ont une industrie aujourd'hui qui, pour 9 millions d'habitants, est plus importante que la nôtre. Donc arrêtez de penser que l'homme politique est capable d'avoir une politique industrielle. La seule politique industrielle, c'est que les entreprises viennent s'établir chez lui parce qu'elles y gagnent de l'argent.
Charles, est-ce qu'on peut émettre un avis légèrement différent du tien et bien rester
sûr.
Ton ami?
Bien sûr, ouais. C'est pour ça que ça s'appelle la Société des Libertés.
Alors, moi je crois que nous avons tous les deux un peu de vécu, tous les trois, je te pensais pas si vieux, enfin de 61 ans, t'es pas vieux non plus, mais nous avons un peu de vécu. Quand je t'entends parler, il me semble que je me retrouve dans mes jeunes années de maire ou de conseiller général, que... mission dont je m'acquittais avec un sens de la responsabilité qui m'empêchait de dormir. Et d'ailleurs, mes adjoints, c'était pareil, etc. Bon, mais c'était une réalité à un moment donné. Heureusement que je n'ai plus ce titre aujourd'hui. Toi, tu as été chef d'entreprise, tu l'es devenu, tu as construit parce que tu étais un bâtisseur. Et toi, tu aurais été un bâtisseur de cathédrale s'il a fallu construire des cathédrales.
Si on m'avait laissé faire, je l'aurais fait.
Voilà.
Mais on m'a pas laissé faire.
Le problème, moi, qui me fait rejoindre en partie Eddy, c'est que, heureusement quand même, que nos entreprises ne se donnaient pas, ou n'allaient pas s'installer. Si elles s'installent d'elles-mêmes, tout va bien. Mais si c'est pour aller rejoindre quelqu'un qui va les dévorer, parce qu'il aura autour de lui une armature financière, une organisation nettement supérieure.
Ça, c'est tout à fait autre chose.
Ça amène à des fautes de délocalisation, 400 000 entreprises.
Là, je suis tout à fait d'accord. Et ça, c'est un crime. Parce que ça ne pourrait pas se passer si les taux d'intérêt n'étaient pas à zéro.
Ah oui, mais...
C'est-à-dire que si le coût du capital... Aujourd'hui, le coût du capital a été mis à un niveau tellement bas que ça permet aux types qui peuvent emprunter, qui ont des actifs, d'emprunter à des coûts très bas... pour racheter une entreprise, alors que si le coût du capital était à un niveau élevé, il ne pourrait pas emprunter. Donc on a fait la fortune de Goldman Sachs et on a détruit l'industrie française. Donc le dépecement de l'industrie française, c'est le résultat direct de l'euro et des taux d'intérêt qui sont très bas en France. Des taux d'intérêt bas, ça enrichit le riche et ça appauvrit le pauvre. Donc... Moi, je te parlais dans une économie normale où il n'y a pas des gens qui pensent qu'il faut faire un projet politique pour créer une Europe politique. Si le franc français était à son niveau où il doit être, les taux d'intérêt seraient à 6 ou à 7 et on ne pourrait pas emprunter pour acheter des entreprises à 6 ou à 7 parce que les types ne gagneraient pas d'argent. Mais si tu peux emprunter à 0 pour te racheter une entreprise qui est à 6, tu mets des dettes et ensuite tu vires la moitié des gens et tu mets l'entreprise ailleurs et tu te rembourses et tu as fait fortune. Mais tu n'as pas fait fortune en créant de la valeur. T'as fait fortune en détruisant de la valeur. Et c'est la Banque de France et c'est les politiques qui ont systématiquement favorisé ce système. Donc encore une fois, quand les gens me disent il faut une vision à long terme, eh ben on l'a eu la vision à long terme. C'était la création de l'Europe avec l'euro qui a détruit l'industrie française. Donc, quand j'entends un politique me dire il faut laisser les hommes politiques avoir les trucs à long terme, je leur dis surtout foutez-moi bien la paix. Tu connais le nom d'un politicien suisse ?
Il n'y en a pas. Enfin, si, il y en a. Des vrais.
Non, mais je veux dire, la Suisse, elle n'a pas de déficit budgétaire.
Elle a des cantons,
elle a un excédent budgétaire, elle a un excédent extérieur, elle n'a pas de ressources naturelles, elle a une industrie qui est maintenant plus grande en termes absolus que la nôtre, le niveau de vie le plus élevé du monde, la monnaie la plus forte du monde. Et tu ne connais pas le nom d'un politicien suisse. C'est peut-être parce que tu ne connais pas le nom d'un politicien suisse que ça y a tous ces résultats.
De Gaulle t'aurait répondu, oui, mais la France, ce n'est pas la Suisse ni la Suède. La France est complexe.
Mais la France est complexe, mais elle est en train de...
Nous avons tous un peu raison et un peu tort en même temps. Parce que, de la même manière, et j'ai pas fini tout à l'heure, vous allez me trouver un peu désordonné, là, ceux qui nous écoutaient, mais parce que quand on a la chance d'avoir Charles Gave pour la première fois, non pas dans une pastorale, mais en face de soi, et des Pujolons, d'ailleurs, il faudrait qu'on touche un mot, parce que nous, on est en train de préparer un vrai projet pour l'Aquitaine, qui va reposer sur les fondamentaux dont nous parlons.
Très bien.
Et on va pouvoir voir ce que ça donne, effectivement.
Absolument, mais ça,
alors, moi, je pense que, il y a eu là, au cours de ces courtes années de transition, une erreur d'aiguillage. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que c'était l'Union européenne qu'il fallait construire. Il avait encore raison, le vieux. C'était l'Europe des nations.
Mais évidemment.
Et on déciderait, et on ne serait pas en compétition, surtout comme on l'est aujourd'hui, parce qu'il faut être vraiment en compétition avec les Italiens, les Allemands, même les Espagnols maintenant, autant qu'on l'est. Il faut vraiment le vouloir. C'est les très hauts fonctionnaires dont tu parlais tout à l'heure, notamment.
Tu sais, c'est pour ça que j'ai
dit que...
C'est ce que je dis, moi, ce qu'il faut faire, c'est pas faire le Frexit, c'est faire le Bruxit, c'est-à-dire sortir Bruxelles de l'Europe. C'est qu'il faut c'est sortir ces cornures qui ne servent à rien.
Ils sont en Belgique. Mais tu sors,
tu n'as pas besoin d'une assemblée européenne. Tu n'as pas besoin d'une Cour de justice européenne, tu n'as pas besoin d'une Cour des droits de l'homme européenne, tu as besoin de rien du tout.
C'est la surenchère aux directives, la surenchère aux
Tu as besoin simplement de gars qui vont, de l'équipe du ministère des Affaires étrangères et qui vont négocier les
bien
accords,
sûr.
Comme ça se faisait autrefois, t'arrêtais la montre et puis tout allait bien.
On a besoin de retrouver de grands ambassadeurs parce que l'une des forces de la France, ça a été sa diplomatie. On prépare les affaires et à ce moment-là, tu n'as plus des Ukrainiens qui travaillent à 400 euros par mois et qu'on fout dans des cabanes à lac pour finir le pétrole, et alors que Français, tu dois quand même respecter.
Alors, donc, qu'est-ce que tu vas faire aux élections présidentielles? Tu vas te présenter.
Voilà, je vais me présenter.
Tu vas te présenter.
Oui.
Moi, si j'avais un projet, ce serait de dire le seul programme qu'il faut avoir, c'est le référendum d'initiative populaire pour rendre la parole au peuple. Je dirais, moi, mon seul programme, c'est le référendum d'initiative populaire.
Mais alors, le simplifier beaucoup.
Mais
parce
il faut
que celui tel qu'il est...
Non, celui qu'il est, il ne marche pas, celui-là. Non, celui de Sarkozy, c'est une saloperie.
Il te faut un siècle pour le mettre en application.
Non, il faut le référendum d'initiative populaire, avec le président qui peut lancer un référendum, ou le peuple, comme en Suisse. Et ensuite, on pourra réformer tout ça. Mais, c'est-à-dire qu'il faut arriver au truc où on est en Suisse, c'est-à-dire que le lundi matin, par exemple, ils viennent de voter l'interdiction de la burqa. En Suisse, ils ont dit 52% des gens sont contre la burqa, donc plus personne avec une burqa, très bien, j'ai rien contre. Et le lundi matin, les journaux suisses titraient « Le souverain a parlé ». C'est le peuple. Et donc, Libération ferme sa gueule, le Monde ferme sa gueule, tous les emmerdeurs qui disent « Vous pouvez pas faire ci ». Par exemple, on fait passer « Est-ce que les gens qui ont été condamnés en France, qui sont pas français, sont renvoyés automatiquement dans leur pays d'origine ?» Le peuple dit « Oui, bien sûr ». Et tu peux les virer. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'aujourd'hui, le peuple ne peut plus parler parce qu'on lui a enlevé. Il n'a plus sa souveraineté juridique, il n'a plus sa souveraineté administrative, il n'a plus sa souveraineté monétaire, il n'a plus sa souveraineté budgétaire, il n'a plus sa monnaie.
Est-ce que
qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'est-ce que tu veux? Tu es élu président de la République. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux rien faire.
C'est le plus beau des pouvoirs redonnés au peuple.
Oui.
Est-ce qu'il ne faut pas un sevrage sur la désinformation médiatique qui a asservi le peuple.
Non, mais ça, à ce moment-là, on coupe les subventions à RTL, France Inter, à Sud-Ouest, si tu veux, aujourd'hui, et à ce moment-là, tous ces trucs ferment et les gens se réinforment.
Aujourd'hui, malheureusement, les gens sont désinformés, et donc on peut les manipuler comme on veut.
Mais ils ne sont pas désinformés, puisque la moitié d'entre eux ne vont plus voter.
Il va falloir éviter aussi, si on parle de presse, juste un instant, mais il faudrait que tu laisses parler Eddy un peu de notre projet, si tu as une minute.
Il faut qu'on regarde l'heure.
Je pense qu'il faudra qu'on trouve, mais il n'y a pas que ça, aussi le moyen, parce qu'il y a des fautes à tous les étages, hein. Que ce soit M. Bolloré ou M. Niel, mais à la tête du monde, qu'est-ce qu'il y fout? Il est là pour payer 600 journalistes, mais je ne crois pas qu'il se shoote au journalisme, Niel. C'est pour qu'on ne dise pas du mal de lui. Bon, nous on a tort. Les fonctionnaires ont tort, les chefs d'entreprise ont tort, mais il faut aussi que chacun balaye devant sa porte. Moi, j'ai été invité à une émission, j'ai eu le nom de dire qu'est-ce qu'on rigolait bien avec tu sais, là où il y avait le coq qui imitait tous les personnages, les guignols. Bon, ça n'a pas empêché les choses de se faire, mais on avait quand même un peu de sourire de temps en temps. J'ai dit, tout d'un coup, Bolloré est arrivé, il a viré tout ça. Ah non, pas ça, il ne faut pas dire ça. Hein. Et j'avais demandé avant à la télé qui m'interviewait, non, la journaliste me dit, ne vous en faites pas, c'est enregistré. S'il y a des choses que vous regrettez, vous nous téléphonez, on peut les virer. J'ai dit, bon, très bien, ok. Et si c'est le contraire? Ah non, ici, ça risque pas d'arriver, vous pouvez tout dire. Je dis ça? Ah non, hein, ça ne dites pas ça surtout. Ah bon, mais alors il fallait me le dire, je ne l'aurais pas dit. Non, mais vous pouvez l'enlever, donc l'a enlevé. Donc là aussi, je pense qu'à ce niveau-là, il faut faire du ménage, parce qu'aujourd'hui, le peuple est très loin de ça. Mais le peuple, il est très très loin de ça. Hein.
Il faut dire la vérité.
Non, mais il faut le grandir.
Comment on a réussi à faire une dette pareille depuis 40 ans, et bien avec les vrais moyens, le discours du président, repris par le Premier ministre, devant les chambres, télévisé, et ensuite les députés chargés d'aller animer dans tous les coins de France des explications et des débats autour de ça. Il faut faire la même chose pour l'Europe et pour l'euro. Et pourquoi?
Mais l'euro, l'euro, ça peut pas marcher.
Ça
peut pas marcher.
Toi, tu l'as expliqué. Moi, je le comprends. On a mis une monnaie avec la valeur allemande, alors que la monnaie française avait besoin d'être. Avait toujours besoin d'être réévaluée.
Ben, c'est pas difficile.
Et la monnaie française avait besoin d'être dévaluée.
Mais c'est pas difficile. Pour 100 000 habitants, il y a 70% de fonctionnaires de plus en France.
Bien sûr.
Moi, j'en ai rien à foutre. C'est pas mon problème. Si les Français veulent avoir des fonctionnaires, ça me gêne pas. Mais qui paye les fonctionnaires, c'est le secteur privé. Et donc, ce qui se passe, bah, si tu veux, c'est que le secteur privé est français, il paye 70% de fonctionnaires. Alors, s'il est payé en francs français et que le français se pète la gueule, c'est pas grave. S'ils sont payés moins cher que les fonctionnaires allemands, ils peuvent en avoir plus. Mais tout le monde s'en fout. C'est une décision politique, c'est pas une décision pour moi. Mais tu peux pas avoir 70% de fonctionnaires de plus et un taux de change fixe avec l'Allemagne. Tu peux avoir un taux de change fixe avec l'Allemagne, mais il faut virer 70% de fonctionnaires. Mais tu peux pas avoir les deux.
Charles, avec un résultat moindre.
Tu peux pas me faire perdre en une minute la moitié d'un électorat potentiel.
Et les fonctionnaires sont d'accord.
Moi, je dirais qu'il y a des fonctionnaires, et il y a beaucoup de fonctionnaires qui font très bien leur boulot.
Mais je dis pas le contraire.
Mais tu l'as dit justement tout à l'heure, tu as dit comme moi. C'est-à-dire que chacun soit à sa place. Et qu'il ait la responsabilité, qu'on lui foute la paix.
Et qu'on puisse dire si il est trop nul.
Pour mettre des punaises, là où quelqu'un d'autre peut le faire beaucoup mieux que lui et sans se taper sur les doigts, mais qu'on le mette, s'il est haut fonctionnaire, à un poste où il est directement rattaché à quelqu'un qui est issu du suffrage universel et qui aura des comptes à rendre, et qu'on mette, aura un peu plus bas, mais quelqu'un sous l'autorité du préfet, du sous-préfet, etc. À ce moment-là, il y a beaucoup de choses à faire aussi.
Mais
le problème, comme tout est désordonné, comme plus personne n'a, au fond, nous sommes des patriotes, mais le gars qui ne le sait pas, il rentre, il veut faire sa cour, donc il fait le vide, comme tu l'as très bien expliqué pour les hôpitaux. Au lieu d'avoir des chirurgiens, on a des fonctionnaires qui, pour le coup, là, n'ont pas grand-chose à faire, ni rien.
Ce serait la bonne nouvelle s'ils faisaient rien. Ils sortent des trucs et ils empêchent tout le monde de bosser.
Oui.
Donc il faut redéfinir, c'est pour ça qu'il y en a qui sont là pour créer des problèmes.
Oui.
Un truc un peu débridé. On verra ce qu'on en sort, parce qu'il va falloir qu'il y ait des montages et tout. Mais je crois que l'idée essentielle, c'est quand même de dire, que le cœur du problème aujourd'hui, et vous m'arrêtez si vous n'êtes pas d'accord, mais c'est l'État qui ne fait pas bien ce qu'il devrait faire et qui fait des tas de choses qu'il ne devrait pas faire et où il emmerde tout le monde. Donc on retrouve la phase de Pompidou, mais cessez d'emmerder les Français, quoi. C'est-à-dire qu'il faut, il faut que l'État cesse d'emmerder les Français et se remette à leur service. Moi, un jour...
À leur service.
Voilà.
C'est ça. À leur service.
À leur service.
Avoir un peu de modestie de nouveau. Voilà. Et nous, les politiques, les premiers. Et puis, reprendre la définition, même pas de... c'est la constituante. Le député est élu au suffrage universel par le peuple souverain dans sa diversité. Il représente le peuple, il incarne une parcelle de la nation. Écoute, il y a 200 ans de ça, il n'y a aucune des républiques qui a changé. Si déjà nous apprenions ça, et que nous l'apprenions par cœur, avant de nous lancer dans des campagnes débridées, qui tombent sur des électeurs...
Mais moi, je suis assez d'accord, mais ce qu'on a vu émerger, quand même, parce qu'il fallait une semaine pour aller Toulouse à Paris, quand il y avait cette définition, donc on avait besoin du représentant. Aujourd'hui, je crois qu'il faudrait que le peuple souverain décide qu'il y a un certain nombre de choses du domaine régalien dont il est le seul à avoir...
À pouvoir décider.
À pouvoir décider.
Absolument.
Mais c'est ça, il faut qu'on enlève la possibilité aux hommes politiques de toucher le régalien.
Oui.
Il faut que ça retourne au peuple.
Tout à fait. D'ailleurs, je n'ai jamais voté un texte, je vote très peu de textes d'ailleurs, parce que je ne suis plus d'accord avec aucun. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé mon propre mouvement. Mais on s'est occupé de tout, et ce qui a été le plus effroyable, c'est qu'à un moment donné, la France, le peuple a dit 50% non au traité européen.
Avec la deuxième strate européenne.
Hein. On s'est réunis à Versailles, mais nous l'avons fait. Et le pire, c'est que nous n'avons été qu'une petite trentaine à voter contre.
Sans compter qu'on nous a rajouté la strate européenne en disant toujours c'est la faute à l'Europe. Et c'est les mêmes, hein. Donc on a aujourd'hui les deux couches.
Donc on était trois citoyens français énervés parce que leur pays va pas bien. Je crois que c'est ce qu'on a dit. Donc on s'est énervé, on a discuté, c'était peut-être un peu café du commerce, mais on s'en fout, il y a plus de vérités qui sont dites au café du commerce qu'à l'Assemblée nationale, donc on va pas se faire de soucis pour ça. Moi, mon mot de la fin, c'est qu'il n'y a pas de solution sans qu'on rende le pouvoir au peuple souverain. Et ça ne peut passer que par un référendum d'initiative populaire. C'est-à-dire que ce n'est pas les hommes politiques du haut qui décident ce qui intéresse le peuple, mais c'est le peuple qui décide lui-même ce qui l'intéresse et sur quoi il va voter. Donc pour moi, l'élection présidentielle prochaine, c'est celle du retour de la souveraineté au peuple. Puisque aujourd'hui, il y a tout un tas de problèmes qu'on ne peut pas résoudre autrement que par le retour de la souveraineté au peuple. Donc moi, en ce qui me concerne, je ne voterai jamais pour quelqu'un qui n'a pas ça comme seul et unique point de son programme, si j'ose dire. La solution, c'est le peuple.
Alors sur ce plan-là...
Maintenant, je laisse la parole à Jean.
Merci beaucoup. Vous l'avez dit, je ne sais pas.
Mais lui aussi,
je suis totalement d'accord, Charles. Je pense que ça doit être inscrit en lettres de feu, peut-être, de nouveau en nos têtes, pour que pas les brûler, mais pour nous remettre d'accord. Et c'est pour ça que nous avons parlé du référendum d'initiative populaire. Il faut totalement le revoir, parce que tel qu'il est...
Oh, c'est pas jouable.
Moi, j'ai proposé le vote blanc pour une transition pacifique. Parce que sinon, on va tout droit là, vers des
affrontements.
Voilà, ou pire, je ne sais pas. Ou les deux. Moi, j'ai proposé le vote blanc... Mitterrand en avait parlé, Chirac avait le faire, Hollande aussi, personne n'en a fait. Mais le vote blanc, bien sûr qu'il y a un côté désagréable, mais la France aime aussi traiter ses problèmes. Et au lieu de les traiter avec des armes, traitons-les par la politique, mais par des vraies politiques, qui savent qui est le patron absolu, c'est le peuple. Donc moi je verrai l'institution que l'on comptabilise. Le vote blanc parmi les exprimés. Et qu'est-ce qui va arriver en tête pendant deux ou trois élections? C'est M. Blanc. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce que c'est M. II qui est devant? Non. Donc le peuple, comme il était tué en France, quand on lui redonne enfin la possibilité de s'exprimer, il va nous obliger, eh bien, à plancher ensemble, parce que là, on doit sortir de...
Ça, c'est pour l'exécutif. Voilà. Il me semble que déjà... pour les problèmes régaliens, il faut poser la pression au peuple. Il faut qu'il la pose à lui-même.
Oui, mais parce que le régalien, ça lui appartient, de savoir quelle organisation il veut. Donc, c'est lui qui va donner des voix. Et puis ensuite, il faut pouvoir avoir des référendums ordinaires. Et pour ça, moi, je pense qu'on doit en finir avec le président et l'Assemblée élus en même temps. Je me demande s'il ne faut pas revenir au septennat
non éligible,
de façon à ce qu'on puisse se dissoudre et qu'à un moment donné, on fasse respirer. Mais si déjà il y avait un peu plus souvent des référendums et que le peuple souverain, et on se rejoint totalement, puisse s'exprimer, on éviterait bien des désordres.
Et il y a des problèmes...
Un sens commun.
Il y a des problèmes qu'on ne peut pas résoudre, comme par exemple celui de l'immigration pour des raisons...
Mais bien sûr.
Tandis que là, on demande son avis au peuple, et le souverain a parlé, ben, celui qui a perdu se tait, quoi, c'est fini. Tandis qu'il y a des questions qu'on ne peut pas poser, si on est un politique normal.
Bien, tu ne peux pas, tu es disqualifié avant même d'avoir parlé. Pardon, à toi, Eddy.
Non, je suis entièrement d'accord avec toi sur le vote blanc. D'abord, le vote blanc, ça permet à tous les gens de pouvoir s'exprimer, et ça donne quand même une tendance. Ça oblige les gens aussi, et ça leur permet d'aller voter, parce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir ce piteux score aux élections, je ne parle même pas en période Covid, hein, parce que là, la Covid, ça en rajoute une couche. Sur le référendum d'initiative populaire, j'y suis entièrement d'accord. Moi qui suis, qui ai un regard particulier sur le vote sur l'Europe, où Dieu sait qu'on a travaillé, j'ai fait beaucoup de campagnes pour ce fameux référendum où Nicolas Sarkozy s'est assis dessus, hein, faut le dire, les choses, et qui m'est resté en travers de la gorge, parce que le peuple avait décidé. Évidemment, j'y suis d'accord, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, j'y suis d'accord à condition qu'il ne soit pas dévoyé par une désinformation. Et là, sur les sujets, alors basiques, comme tu le dis, sur l'immigration, pourquoi pas, mais attention à ne pas se faire voler.
Mais regarde, on va conclure là-dessus, mais moi, je suis pas du tout inquiet pour la misinformation, parce que aussi bien pour Maastricht que pour le traité européen, là, on l'avait matraqué le peuple comme jamais. Et il a voté contre.
Bien sûr, bien sûr.
J'ai vu en Angleterre, le Brexit, tout le monde disait « Oh là là, cette loi dans le nez, ils vont tous voter pour l'Europe ». Ils ont voté contre. Donc, je ne crois pas du tout à la désinformation. Que les corneaux à Paris disent tous que « Bon, il y a les bobos à Paris qui vont voter », mais personne ne les écoute. Donc, si j'ose dire, on est arrivé à un tel point de désinformation qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a toute une série qui vote littéralement en pensant que ce qu'ils disent à France Inter, c'est le contraire de la vérité, donc ils vont faire le contraire. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils suivent France Inter à l'inverse.
Hélas, un peu de ça, et c'est terrible pour un grand peuple comme le nôtre, un grand pays comme le nôtre.
Mais je suis d'accord. Merci beaucoup, messieurs.
Merci, Charles.
Et merci à toi.
On est tous inquiets.